Bon, alors pour reprendre ton expression ou la question qui t'est posée, mon enfant de 19 ans devra payer de l'impôt pour 2020. Alors, quoi faire? Que faire?
Oui, la mise en situation, c'est qu'imagine-toi donc cette année, il y a des enfants adultes qui ont des vrais problèmes. De vrais problèmes, ils ont eu du revenu de travail avant la pandémie, pendant la pandémie jusqu'à 1 000 par mois, plus la prestation canadienne d'urgence. Et les plus chanceux ont eu leurs parents prévoyants qui ont mis de l'argent dans le régime enregistré d'épargne études. Et donc, la portion des paiements aux études qu'ils doivent recevoir cette année ou qu'ils ont reçu plutôt est imposable pour la subvention et le rendement, si on oublie le capital. Alors là, j'ai des situations de genre, « Hey, cette année, je vais faire 22 000, 23 000. Que faire? Je vais payer de l'impôt. » Bon, premièrement, le jeune, c'est pas grave. Payer de l'impôt, c'est pas si pire. Surtout à ton taux d'imposition marginal. Mais la question qui revient, c'est est-ce qu'on devrait contribuer au régime enregistré d'épargne retraite, le REER, pour compenser l'impôt, annuler l'impôt? En fait, c'est pour retarder l'impôt à la retraite ou au retrait ou simplement profiter de la différence de taux. Et il y a là le problème. Quand tu es étudiant, ton taux marginal d'impôt, ça veut dire que ton taux sur le prochain dollar, si tu atteins les 23 000-24 000 $ de revenus, tu es à moins de 28 % Et la logique du REER, c'est différer l'impôt et c'est de déduire l'argent quand ton taux d'impôt est élevé et profiter de la baisse de taux à la retraite. Alors ici, ce ne sera pas le cas. Si tu déduis des REER pendant que tu es étudiant, l'erreur que j'ai déjà faite, pour sauver quelques dollars d'impôt, c'est un avantage très court terme pour immobiliser de l'argent. Je te donne un exemple. Si tu as 23 000, puis là tu te dis, OK, je vais mettre 3 000 en cotisation REER, ça va juste faire baisser ta facture fiscale de 826 si on oublie les autres crédits et autres, même de base, avec le crédit de base, tu vas passer 2344 d'impôt à 1000 quelques. Donc, tu vas juste sauver 800 quelques dollars d'impôt pour une cotisation de 3000. Alors, la question, c'est, à ton âge, tu peux-tu payer de l'impôt? Et l'autre question, c'est de dire, tu sais, si tu te gardes une petite gêne comme personne, puis tu dis, cette année, j'ai fait beaucoup d'argent parce que le gouvernement m'a envoyé de l'argent gratis lié à la PCU, j'ai travaillé quand même, puis j'avais des REE, peut-être que renvoyer un petit chèque là, de 2000$ au gouvernement en impôts, c'est pas si grave. Parce que dans le fond, c'est de l'argent pour lequel tu n'as pas travaillé. Alors même si tu as une facture fiscale, tu peux te dire, ben c'est comme un retour de la portion dont j'avais pas besoin. Et si j'en ajoute une couche, Paul, l'étudiant peut en profiter pour mettre de l'argent dans son CELI à la place. Et là, rendre ça à l'abri de l'impôt pour les 30 prochaines années. Non, mais la personne me dit, « Ouais, mais si mon enfant cotise à son REER, il va pouvoir le râper, cet argent-là, pour mettre sa mise de fonds sur une maison. » Oui, mais tout ça pour sauver quelques centaines de dollars d'impôts.
Toi, tu dis, dans le fond, là, attends que ça soit plus payant.
Ben oui.
Puis simplement parce que tes revenus vont potentiellement augmenter et là, ce sera peut-être plus efficace.
Exact. Puis oublie pas que présentement, ton impôt que tu as payé, c'est ridicule. C'est juste comme étudiant de 19 ans, tu n'en as jamais payé de l'impôt. Fait que tu dis, mon Dieu, c'est épouvantable. Mm-hmm. Je suis moi étudiant, puis je paye de l'impôt. C'est épouvantable. Oui, mais fais-toi-en pas. À partir de 23-24 ans, tu vas t'habituer.
Bon point. Airbnb et DoorDash.
Oui, qui entre en bourse. Et là, tu sais comment il y a souvent de l'effervescence autour de l'entrée en bourse. Et là, on nous dit qu'on a haussé au niveau de DoorDash et d'Airbnb le prix d'entrée. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a tellement d'effervescence et que les conditions de marché s'améliorent qu'on se dit on va monter le prix d'entrée à un montant plus élevé par action. Et là, c'est un produit en vogue. Ça va attirer les petits investisseurs néophytes qui aiment ça quand c'est en mode. Ça va attirer des spéculateurs qui vont miser sur le fait que les gens vont dire « Oh, DoorDash et Airbnb, c'est à la mode. » Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir investir. Et donc, il y a un moyen de faire de l'arbitrage en quelques jours et faire de l'argent avec ça. Et c'est pour ça qu'il risque d'y avoir au début une surenchère du titre. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui en profitent pour en acheter. La question après ça, c'est de dire « Est-ce que les spéculateurs seront aussi au rendez-vous que ça? » Et est-ce que les spéculateurs sont capables de sortir au bon moment? Parce qu'évidemment, ça peut continuer. Mais je voulais donner des exemples d'entreprises comme ça qui sont entrées en bourse et que la hausse de la valeur de l'action après les premières journées, bien, c'est fait attendre. Je te donne un exemple. Mm-hmm. Pinterest, l'action a vraiment pris, disons, plus d'une année avant de retourner en haut de façon constante du prix d'entrée. Et donc, oui, il y a des gens qui ont spéculé au début. Mais ça a redescendu après. Et là, c'est juste à peu près en 2020 qu'on a vu, en juillet 2020, qu'on a vu ça redécoller de façon extraordinaire. Après ça, Uber, avant il y a quelques mois, l'action était toujours en bas du prix ou était longtemps en bas du prix d'entrée en bourse. Et même Facebook a pris un an avant de voir l'action se détacher de la valeur des premiers jours. Et c'est pour ça que les fonds d'investissement qui sont très sérieux laissent souvent les gens s'exciter au début, quitte à perdre une occasion d'achat, en se disant « il y a beaucoup de bruit les 6 premiers mois, on ne touchera pas à ça. Une fois que le titre va s'être stabilisé, là on va entrer peut-être si c'est un titre qui nous semble logique à long terme avec des flux monétaires réguliers. Mais si la journée d'entrée en bourse, il y a des petits investisseurs qui font de l'argent, tant mieux pour eux. Mais en tant qu'investisseur sérieux, il faut laisser le bruit passer. Et c'est un peu la même chose au niveau des investissements quand tu regardes ça d'un point de vue global. Tu te dis, hein, une entrée en bourse, ça pourrait me faire faire de l'argent rapide. Comme mettre de l'argent sur le rouge à roulette au casino. Mais en même temps, quelqu'un dit, ouais, OK. Mais si tu regardes l'historique de ces entreprises-là et l'effervescence qu'il y a autour des titres, qui profite vraiment d'une nouvelle entrée en bourse? Ce sont les investisseurs privés qui avaient investi dans le titre, qui étaient dans un fonds de capital de risque et qui se disaient, nous, quand ça va entrer en bourse, on va passer à go. Un peu comme quand tu joues au Monopoly. Là. Puis que tu es rendu 3-4 cases avant le go, tu te dis, m'a passé à go, je vais réclamer 200. C'est un peu la même affaire. Quand une entreprise entre en bourse, les grands gagnants, si c'est vraiment spectaculaire et que le prix d'entrée est vraiment beaucoup en demande, bien, ce sont ceux qui avaient investi depuis 5-10 ans dans un fonds de capital de risque et qui avaient un plan de sortie et que le plan de sortie, c'est trouver des investisseurs. Et l'avantage, c'est que dans ce cas-ci, quand c'est en bourse, ça devient extrêmement liquide comme placement.
C'est sûr. Merci. Merci. Salut. Merci. À demain.